après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour revenir sur Paris-Roubaix 2024. Oui, ça avait lieu dimanche, on est mardi, je n'ai pas eu le temps. Paris-Roubaix, la fin de la saison des classiques flandriennes se finissait sur l'enfer du Nord ce dimanche. Avec évidemment un immense favori, Mathieu Van Der Poel, toujours en absence, ce bon vieux Wout Van Aert. Le carrefour de l'Ade, Mont-Saint-Pével, la trouée d'Arenberg et cette fameuse chicane qui a tant fait de débats, des mauvais pavés, il fallait rouler sur le haut du pavé pour aller vite. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. C'est une édition qui rentre dans l'histoire, et ce pour plusieurs raisons, ce Paris-Roubaix 2024. Déjà parce que Mathieu Van Der Poel s'est imposé et qu'il réalise un exceptionnel doublé Flandre-Roubaix. Il avait fait une échappée de 44 km après une attaque dans le Koppenberg du côté du Tour des Flandres. Cette fois-ci, il est parti à 60 bornas de l'arrivée dans le secteur d'Orchy. Il avait mis une première attaque dans la trouée d'Arenberg. Le peloton était à peu près une trentaine après Aveluy et le secteur de demain à Manchot. Cette chicane est passée plutôt tranquille. Il faut dire qu'en même temps, ils étaient plus beaucoup. Hein, donc, c'était pas. Ça risquait pas de faire de grosses chutes. Van Der Poel avait testé en tout cas ses adversaires lors de la trouée. On avait vu un Pedersen costaud et on a surtout vu une Alpecin de Koenig très puissante avec encore une fois un Gianni Vermeersch excellent et puis un Jasper Philipsen qui paraissait et qui a été très très costaud. Voilà, ça a été du grand Alpecin, de la grande stratégie de course, mais quand on voit le niveau qu'a eu Mathieu Van Der Poel sur toute cette course, est-ce qu'il avait seulement besoin d'une équipe ? C'était tout bonnement hallucinant de voir la maîtrise qu'il avait sur les pavés. C'est la première fois que je vois... Alors, j'ai déjà vu Van Der Poel à l'aise techniquement sur plein de courses. Mais là, le niveau technique qu'il a développé sur les pavés, et quand on le voit placer son attaque à 60 bornes de l'arrivée, il y a une puissance, une facilité, une dextérité sur les pavés par rapport aux autres coureurs qui est juste hallucinante. C'est-à-dire que oui, c'est le plus fort, c'est le plus puissant, c'est celui qui peut le plus accélérer à ce moment-là et maintenir un haut niveau, mais la vitesse avec laquelle il passait dans les virages sur les pavés, la vitesse avec laquelle il arrivait à placer son vélo sur les pavés, c'était tout bonnement hallucinant. Et en parlant de technique, quand on voit l'état physique, mais je parle physiquement, d'être marqué physiquement au niveau des mains, au niveau ampoule, quand on voit les mains de Pidcock, quand on voit les mains d'Abrahamsen, et quand on voit les mains de Van Der Poel, qui t'as l'impression qu'il il s'est fait une petite manucure, mais tu te dis que les mecs, ils n'ont pas vécu la même course, quoi. C'était tout bonnement hallucinant. Et s'isole donc à 60 km de l'arrivée, seul en tête. Derrière, il y a un groupe constitué de Pedersen, de Laurence Pitti qui chutera par la suite, de Stephen Kung et de Nils Polite et de Jasper Philipsen qui contrôlera tout ça. Van Der Poel augmente son avance au fur et à mesure des secteurs pavés et il arrivera sur le vélodrome à Roubaix avec 3 minutes d'avance sur le groupe Philipsen-Pedersen-Polite qui sera réglé par Philipsen, qui fait du coup deuxième, comme l'année dernière, donc double doublé pour Alpecin de Koenig, 1 et 2, tout comme l'année dernière, Van Der Poel, qui fait donc le doublé en s'imposant en 2024 comme en 2023, mais là, cette année, il a quand même réalisé deux performances hallucinantes sur les monuments flandriens. C'est son sixième monument à Van Der Poel, le deuxième Paris-Roubaix. Plus ça va, plus... il rentre dans l'histoire du cyclisme, c'était absolument hallucinant. L'édition s'est roulée à une vitesse absolument folle de 47,8 km/h. Alors, ça fera jaser qui ça voudra faire jaser. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un fort vent aussi toute la journée. et qu'on, cette année, les trois monuments se sont courus à des vitesses absolument hallucinantes. Je crois que la première heure de course s'est passée à quasiment 50 km/h de moyenne, ce qui était tout bonnement hallucinant. Mais que dire d'autre sur cette course ? Il y a pas grand-chose à dire, tant Van Der Poel a tué la course à 60 km de l'arrivée, et puis après, il y avait qu'à regarder, quoi. On n'a pas eu de suspense, et derrière, Pedersen paraissait très costaud, mais Philipsen aussi, et ils ont fait très peu de différence entre eux, puisqu'ils arrivent. Alors, Laurens Pitti chute, mais derrière, on a... entre Philipsen, Pedersen, Polite et Kung, on n'a personne qui s'est vraiment détaché. Voilà, même si je trouvais Philipsen très fort, est-ce qu'il aurait pu vraiment jouer la victoire pour lui tout seul ? Je ne pense pas. Je pense pas que ça aurait été jouable. Et puis de toute façon, qui aurait pu concurrencer Van Der Poel ? Autant la semaine dernière, on se rend compte qu'il était peut-être pas aussi fort que ce qu'on voulait bien faire croire, parce qu'il gagne avec une minute le Tour des Flandres, une minute d'avance sur un Luca Mazzato, sur un podium qui n'est peut-être pas au niveau de ce qu'on attendait. Là, il gagne avec 3 d'avance sur Philipsen, Pedersen, Polite, Kung et Vermeersch. Bon, bah, il y a strictement rien à dire, quoi. Je veux dire, c'était juste le plus fort. Alors, il nous tue la course à 60 bornes de l'arrivée, il aurait pu la tuer à 30. Il s'est fait un raid solitaire absolument énorme. Il a senti la course comme il le fallait. Je veux dire, directeur sportif ou pas, consigne de course ou pas. Paris-Roubaix, c'est une course qui ne ment pas, hein. Clairement. Voilà, t'es costaud ou tu l'es pas, et t'arrives à tenir sur le pavé ou t'y parviens pas. C'est une course qui met tout le monde à sa place. Et Van Der Poel, il était juste à sa place, et sa place, c'était de gagner, c'est tout, point. Il a écrasé les pédales, et puis il a fait une démonstration. Je peux même pas dire que c'est une démonstration tactique, parce que quand t'es le plus fort à ce niveau-là, voilà, moi, vraiment, là où m'a le plus impressionné, c'est son passage à Orchi, là, quand il attaque sur les pavés. Il y a une maîtrise qui est pour moi juste hallucinante, quoi. D'arriver à écraser aussi fort les pédales sur les pavés et d'être aussi peu dérangé, c'est une prouesse absolument exceptionnelle. Donc voilà, Van Der Poel, 5 jours de course, 2 monuments, je veux dire, il est hallucinant sur les classiques, c'est le meilleur coureur de classique avec Evenepoel et Pogacar. Heureusement pour nous, il va faire... pourquoi je dis heureusement ? Il va aller sur Liège-Bastogne-Liège parce qu'il va pouvoir nous offrir un duel face à Poggi. On fera le débriefing de Liège. Ça sera dans 2 semaines. Voilà, parce qu'Evenepoel ne sera pas là. Donc imaginez le duel, le triplé qu'on aurait pu avoir. Pogacar, Evenepoel, Van Der Poel. Ça aurait été juste absolument fou. Au moins, on aura un semblant de suspense. Même si je pense que c'est une classique qui est un petit peu trop difficile pour Mathieu, mais quand je regarde ses résultats sur les monuments, c'est-à-dire qu'il est tout le temps dans les 10, il se rate jamais. C'est juste un extraterrestre, hein, Van Der Poel. Voilà, moi je suis sur le cul de ce qu'il propose. Je regarde l'année dernière, sur les grandes courses, je regarde cette année, donc 10e de Milan-San Remo, où clairement, s'il veut, il part avec Pogacar, il le gagne ou il fait 2. Il gagne le 3, il fait 2ème de Gang VVL Game, il gagne le Tour des Flandres, il gagne Paris-Roubaix. Et l'année dernière, il est champion du monde, il gagne Paris-Roubaix, il fait 2 du Tour des Flandres, il fait 2 de le 3 et il gagne Milan-San Remo. Donc je veux dire, le mec sur les courses d'un jour, c'est un monstre. Il ne finit jamais en dehors des 10, donc c'est-à-dire que il est tout le temps en forme et c'est tout le temps quasiment le plus fort, parce qu'en plus, il a cette capacité à être fort sur plusieurs types de parcours. Donc voilà, c'est le tout-terrain absolu, 6 monuments pour Van Der Poel. Voilà, on est en train d'assister vraiment au couronnement d'un roi du cyclisme, et c'est pas prêt de s'arrêter, parce que voilà. Et oui, cette année, on n'a pas eu de duel face à Wout van Aert. On ne sait pas à quel point Pedersen a été affecté par sa chute sur À Travers la Flandre. Il manquait Jasper Stuyvesant dans son équipe, donc voilà, clairement... Il nous a manqué certains petits trucs. Mais je pense que si ça se trouve, même avec cette adversité-là, le résultat aurait été le même. On aurait eu un duel que là, on n'a pas eu. C'est évidemment très frustrant. Mais voilà, je pense qu'il faut juste se rendre à l'évidence, Mathieu Van Der Poel est un monstre, et on a juste à s'incliner en regardant les courses de VDP. Voilà pour le retour sur Paris-Roubaix, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite pour parler sport, ciao, à plus.